Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour ? 18 novembre 2022. Clôture de la 27e conférence des parties pour discuter du dérèglement climatique, et durant lesquelles on a parlé financement et compensation des dégâts actuels du dérèglement climatique. Qu'est-ce que la COP ? Conference of Parties. Qui participe à cette rencontre ? Comment a-t-elle débuté ? Qu'a-t-elle pu accomplir pour aider l'humanité à surmonter ce qui semble être le bouleversement de tout ce que nous avons pu construire jusqu'à aujourd'hui ? L'existence de cet événement mondial fait suite à de nombreuses alertes lancées par des scientifiques, naturalistes et autres experts depuis plusieurs décennies, ainsi que la naissance et la reconnaissance d'une science pluridisciplinaire, l'écologie, comprenant en outre la climatologie. Parmi les travaux les plus connus de l'époque, on peut citer le rapport du GIEC en 1990, rapport présentant une analyse scientifique du climat et les conséquences de son évolution brutale, et le rapport Limit to Growth, ou rapport Meadows, datant de 1972 et étudiant les conséquences de l'interaction post-industrielle de l'humain avec la Terre. Cette COP est la réunion annuelle des États pour fixer les objectifs climatiques mondiaux. C'est une forme d'organisation propre à certaines conventions internationales. Dans le domaine de l'environnement, il existe trois COP, née de trois conventions signées à l'issue du sommet de la Terre de Rio en 1992. La COP sur la biodiversité, la COP sur la lutte contre la désertification et la COP sur les changements climatiques. Revenons un instant au commencement. À Rio, en 1992, lors du si célèbre sommet de la Terre, la première rencontre internationale de ce type, une personnalité de cette époque a promulgué le discours dont voici un extrait. Une importante espèce biologique risque de disparaître à cause de la liquidation rapide et progressive de ses conditions de vie naturelles. L'homme. Nous prenons aujourd'hui conscience de ce problème alors qu'il est presque trop tard pour l'empêcher. Il faut signaler que les sociétés de consommation sont les responsables fondamentales de l'abominable destruction de l'environnement. Ces sociétés sont nées des anciennes métropoles coloniales et de politiques impériales qui ont engendré à leur tour le retard et la pauvreté qui frappent aujourd'hui l'immense majorité de l'humanité. Tout en ne comptant que 20% de la population mondiale, ces dernières consomment les deux tiers des métaux et les trois quarts de l'énergie produite dans le monde. Les forêts disparaissent, les déserts s'étendent, des milliards de tonnes de terres fertiles aboutissent chaque année à la mer. De nombreuses espèces s'éteignent. La pression démographique et la pauvreté conduisent à des efforts désespérés pour survivre, fût-ce au prix de la nature. On ne saurait en accuser les pays du tiers-monde. Hier colonie, aujourd'hui nation exploitée et pillée par un ordre économique mondial injuste. La solution n'est pas d'interdire le développement à ceux qui en ont le plus besoin. Le fait est que tout ce qui contribue aujourd'hui au sous-développement et à la pauvreté constitue une violation flagrante de l'écologie. Des dizaines de millions d'hommes, de femmes et d'enfants en meurent chaque année dans le tiers-monde. Plus que durant chacune des deux guerres mondiales. L'échange inégal, le protectionnisme et la dette extérieure agressent l'écologie et favorisent la destruction de l'environnement. Si l'on veut sauver l'humanité de cette autodestruction, il vaut mieux distribuer les richesses et les technologies disponibles sur la planète. Moins de luxe, moins de gaspillage, dans un nombre réduit de pays pour qu'il y ait moins de pauvreté et moins de faim sur une grande partie de la Terre. Que l'on cesse de transférer au tiers-monde des styles de vie et des habitudes de consommation qui ruinent l'environnement. Que l'on rende la vie humaine plus rationnelle. Que l'on instaure un ordre économique international juste. que l'on utilise toute la science nécessaire à un développement durable sans pollution, que l'on paie la dette écologique, non la dette extérieure, que la faim disparaisse, non l'être humain. Maintenant que les menaces que représentait censément le communisme ont disparu, et qu'il n'y a plus de prétexte à des guerres froides, à des courses aux armements et à des dépenses militaires, qu'est-ce qui empêche de consacrer immédiatement ces ressources au développement du tiers-monde et à la lutte contre la menace de destruction écologique de la planète? Que cessent les égoïsmes? Que cessent l'insensibilité, l'irresponsabilité et les tromperies? Demain, il sera trop tard pour faire ce que nous aurions dû faire il y a déjà bien longtemps. Je laisse les plus curieux d'entre vous deviner qui a bien pu prononcer ces paroles. Depuis 1995, la COP sur les changements climatiques, comprenant désormais près de 200 pays membres, se réunit tous les ans pour discuter des avancées en matière de régulation du climat et des objectifs à atteindre. Rappelons maintenant quelques dates des décisions supposées endiguer le dérèglement climatique. 1997, le protocole de Tokyo. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un protocole contraignant visant à encadrer les émissions de CO2 de plus d'une centaine de pays est élaboré. Les objectifs sont chiffrés. Réduire de 5,2% les émissions de gaz à effet de serre planétaire d'ici 2020, en se servant de l'année 1990 comme référence. Pour l'Union européenne, cet objectif se traduit par une baisse totale de ses émissions de 8%. Petit couac à cette époque, les deux principaux émetteurs de gaz à effet de serre du monde, que sont les États-Unis et la Chine, ne ratifient pas le traité. 2015, l'accord de Paris a permis de conclure à un remplacement du prolongement du protocole de Kyoto par l'objectif de contenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés, voire le limiter à 1,5 degré. En 2022, pour la COP27, après la parution de rapports rouge écarlate du GIEC sur la destruction du monde dans lequel nous vivons, 300 millions de dollars sur les 580 milliards demandés seront attribués aux pays souffrant déjà du dérèglement climatique. L'année précédente, on parlait de doubler le financement pour l'adaptation des territoires au changement climatique. La COP27 s'est terminée avec un report de cet engagement. Le temps défile et les discours fusent. Le temps défile et la planète chauffe. À ce moment précis, je ne peux vous proposer qu'un voyage dans la jungle littéraire. Votre mission consiste à retrouver dans ce récit fantastique ce qui diverge désormais du réel. Le Naturaliste, chapitre 31, 10 janvier 1845, Igapo, sud-est du Sitio da Silva.
Trois jours de navigation vers l'aval nous ont amenés à un grand lac parsemé d'îles, qui se sont révélées des cimes d'arbres. Nous étions entourés par la forêt, mais la terre n'était nulle part visible. Des arbres, parmi lesquels certaines espèces de palmiers, des éveas et des représentants de l'ordre des légumineuses, sortaient directement des eaux noires dont on ne pouvait deviner la profondeur. J'ai souvent réfléchi à la manière dont le grand fleuve et ses affluents redessinent leur cours. Jusqu'à présent, toutefois, je n'avais pas pleinement saisi l'ampleur avec laquelle ils peuvent effacer cette frontière si fondamentale entre la terre et l'eau. Da Silva a donné l'ordre à son équipage d'amarrer le bateau aux grosses branches d'un emboba, l'ancre ne servant à rien car elle se serait coincée dans les branches en dessous. Une fois le bateau arrimé, nous avons chargé les deux montarias et nous nous sommes mis en route dans un chenal étroit. L'Indien, l'Ontra, la Señorita et moi-même sommes montés dans les premières pirogues. Da Silva et Augustino nous suivaient. La forêt inondée dans l'eau noire, l'Igapo, présente plusieurs défis. Même aux naturalistes chevronnés, dont le moindre n'est pas une désorientation quasi complète. Nous suivons une voie, sous les arbres parmi des centaines d'autres. La plupart du temps, quand je me retournais, assis sur le banc du milieu, il m'était impossible de distinguer par où nous étions arrivés là. Je me rassurais alors en voyant le calme, la concentration de la señorita. L'air se rafraîchissait à mesure que nous pénétrions plus profondément dans la pénombre. Sur une partie de notre parcours, l'eau était couverte de petites fleurs blanches. D'autres flamboyaient de façon sinistre au-dessus de nos têtes dans le firmament du feuillage. Des éclaboussures, intermittentes, nous signalaient la présence de poissons qui sautaient. On ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer une chasse sans pitié se déroulant au-dessus de nous. Une multitude d'espèces munies de nageoires virant entre les branches. Les bottos serpentant derrière eux comme des oiseaux de proie sans plumes. Des éclaboussures plus petites, plus compactes, indiquaient la chute de fruits et de graines. Sous un palmier bien garni, de gros tabaquis gobaient des graines à la surface comme les chevreuils cueillent les pommes d'un arbre. Des puits de lumière trouaient la pénombre. À certains endroits, l'eau libre au milieu des troncs massifs révélait de jeunes feuilles sur les branches immergées à une brasse de profondeur. Ailleurs, la surface offrait un reflet si parfait qu'elle disparaissait. Dans un tel environnement, il devient difficile de se fier à ses yeux. Les bâtons se muent en serpents, les bouts de bois deviennent des caïmans. L'extrémité d'une branche dansant sur l'eau imite la tête d'une tortue. Puis, dans une clairière liquide, de vraies tortues, peut-être une vingtaine, d'Oponosemis expansa nageant au milieu d'une pluie de fruits qui rebondissait.
L'Amazonie, au nuage éternel, est en passe d'être remplacée par une savane, en commençant par la partie orientale brésilienne. Plusieurs études scientifiques alertent que le point de bascule occasionnant des changements à la chaîne, des événements dits en cascade, a été passé. 25% de l'Amazonie a disparu sous l'effet de la déforestation et des feux de forêt, favorisés par la perte de ce nuage éternel, formé par la transpiration de la végétation et l'évaporation de l'eau dans le sol et des multiples cours d'eau. Avec la disparition de la végétation et l'érosion prononcée des sols, l'Amazonie, puits de carbone, devient source de carbone. Gaz à effet de serre parmi de nombreux autres comme le protoxyde d'azote et participant pleinement, avec son relâchement en masse dans l'atmosphère, à la hausse précipitée des températures. Il n'est donc pas étonnant qu'avant la fin de la COP27, le nouveau président brésilien ait demandé expressément à ce que la COP30 ait lieu dans l'Amazonie. Pour ceux qui pensaient venir avec un anti-moustique, se retrouve à manquer de crème solaire dans ce qui semble devenir une savane équatoriale. Des créateurs veulent interroger le monde sur ce que nous perdons en fermant les yeux sur ces catastrophes climatiques. Répondant à l'appel à l'aide du chef de tribu des Suruí, peuple de la forêt amazonienne, Philippe Echarrou veut sensibiliser le public à la disparition de la forêt. Pour cela, il s'inspire du street art et projette des portraits lumineux des membres de la tribu sur des sections menacées de la forêt amazonienne. Un autre artiste aborde également la disparition de la forêt via la violence vécue par les peuples autochtones. Via son projet photographique Seeds of Resistance, Graines de résistance, Pablo Albarenga rappelle à ceux qui maltraitent et assassinent les défenseurs de la forêt que rien n'arrêtera leur combat. Et que pour un habitant de la forêt abattue, quatre se lèvent. L'Amazonie traverse plusieurs pays, Brésil, Bolivie, Pérou, Guyane. Et c'est en Colombie qu'un groupe d'anciens combattants, les FARC, ont décidé de reconstituer un campement d'accueil pour les touristes à l'orée du parc naturel du Chiribiquete, le plus grand parc national de forêt tropicale de la planète. Bien que classé récemment au patrimoine de l'UNESCO, ce parc porte d'entrée de l'Amazonie et proie à la déforestation massive. Ces retraités du combat militaire ont ainsi le projet de lutter via l'écotourisme pour protéger cette forêt et ses multiples habitants.
tu y as pêché où? Baobab acajou.
Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, retournons écouter des amoureux de l'écologie cuisiner aux petits oignons.
Élan de palissandre, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.